On est rendu à un tournant dans notre étude de la parole de Dieu dans le livre de Samuel. Je voudrais vous faire la lecture de 2 Samuel chapitre 11. Je lis. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabba. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander « Qui était cette femme ?» Et on lui dit « N'est-ce pas Bathsheba, fille d'Éliam, la femme d'Uri le Hessien ?» Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David « Je suis enceinte ». Alors David expédia cet ordre à Joab « Envoie-moi Uri le Hessien ». Et Joab envoya Uri à David. Uri se rendit auprès de David, qui l'interrogea sur l'état de Joab, sur l'état du peuple, sur l'état de la guerre. Puis David dit à Uri, « Descends dans ta maison et lave tes pieds. » Uri sortit de la maison royale et il fut suivi d'un présent du roi. Mais Uri se coucha à la porte de la maison royale avec tous les serviteurs de son maître, et il ne descendit point dans sa maison. On en informa David, et on lui dit, « Uri n'est pas descendu dans sa maison. » Et David dit à Uri, « N'arrives-tu pas de voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison ?» Uri répondit à David, « L'arche et Israël et Juda habitent sous les tentes. Mon seigneur Joab et les serviteurs de mon seigneur campent en rase campagne, et moi j'entrerai dans ma maison pour manger et boire et pour coucher avec ma femme. Aussi vrai que tu es vivant et que mon âme est vivante, je ne ferai point cela. » David dit à Uri, « Reste ici encore aujourd'hui et demain et je te renverrai. » Et Uri resta à Jérusalem ce jour-là et le lendemain. David l'invita à manger et à boire en sa présence et il l'enivra. Et le soir, Uri sortit pour se remettre sur sa couche avec les serviteurs de son maître. Mais il ne descendit point dans sa maison. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par la main d'Uri. Il écrivit dans cette lettre « Placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. » Joab, en assiégeant la ville, plaça Uri à l'endroit qu'il s'avait défendu par de vaillants soldats. Les hommes de la ville firent une sortie et se battirent contre Joab. Plusieurs tombèrent parmi le peuple, parmi les serviteurs de David, et Uri, le Hessien, fut aussi tué. Joab envoya un messager pour faire rapport à David de tout ce qui s'était passé dans le combat. Il donna cet ordre au messager, « Quand tu auras achevé de raconter au roi tous les détails du combat, peut-être se mettra-t-il en fureur et te dira-t-il, pourquoi vous êtes-vous approché de la montagne, de la ville pour combattre? Ne savez-vous pas qu'on lance des traits du haut de la muraille? Qui a tué Abimélec, fils de Jérubéchet? N'est-ce pas une femme qui lança sur lui du haut de la muraille un morceau de meule de moulin et n'en est-il pas mort à Thébeth? Pourquoi vous êtes-vous approché de la muraille? Alors tu diras, ton serviteur Uri, le Hessien, est mort aussi. » Le messager partit et à son arrivée, il fit rapport à David de tout ce que Joab lui avait ordonné. Le messager dit à David, « Ces gens ont eu sur nous l'avantage. Ils avaient fait une sortie contre nous dans les champs et nous les avons repoussés jusqu'à l'entrée de la porte. Les archers ont tiré du haut de la muraille sur tes serviteurs et plusieurs des serviteurs du roi ont été tués et ton serviteur Uri le Hessien est mort aussi. » David dit au messager, « Voici ce que tu diras à Joab, ne sois point peiné de cette affaire, car l'épée dévore tantôt l'un, tantôt l'autre. Attaque vigoureusement la ville et renverse-la, et toi, encourage-le. » La femme d'Uri apprit que son mari était mort, et elle pleura son mari. Quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher et la recueillit dans sa maison. Elle devint sa femme et lui enfanta un fils. Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Quelle histoire! Quelle histoire est-ce que l'on a ici? C'est probablement une des histoires les plus connues de toutes les Écritures. Quelle histoire! Le roi David est à ce moment-là au sommet de sa puissance. Il avait commencé comme berger et il a mis à mort le géant. Il s'est forgé une armée tout seul pendant des années, pendant qu'il fuyait au désert. Et puis voilà, 20 ans qu'il gouverne d'une façon impeccable. Il a ramené la prospérité en Israël. Il a étendu le royaume. Il a donné une santé financière. Il a construit un beau palais. Et puis il a amassé aussi des richesses pour construire un temple à l'Éternel. Il en a même fait les plans. Et pourtant, et s'il pouvait vaincre des armées, des nations autour de lui, il a été vaincu par sa passion, par son propre cœur de pécheur. Et là, on aborde un point assez délicat pour nous tous. Et ce point délicat, c'est que un homme pieux comme David, un homme qui a écrit tous ces psaumes qui remplissent nos cœurs. Un homme aussi pieux a commis un crime aussi odieux, aussi vil. Et après avoir fait notre admiration, David nous fait horreur ici. Et l'auteur de 2 Samuel rapporte cette histoire de façon à ce que nous soyons saisis par l'horreur de sa faute. Du haut de son palais royal, David a vu un soir une belle femme qui prenait son bain. Au lieu de détourner son regard, il a regardé avec une curiosité malsaine, jusqu'à ce que ses mauvais désirs se réveillent dans son cœur. Et une suite d'événements s'est alors déclenchée, qui l'ont conduit à tomber dans l'adultère et dans le meurtre. Au verset 3, il avait dit « Mais qui est cette femme ?» Et la parole de son serviteur était claire, il dit « N'est-ce pas Bathsheba ?» Je sais bien qui c'est Bathsheba, la fille d'Eliam. C'était une manière habile de dire à David « Comprends, tu ne dois pas y toucher !» Elle est mariée avec l'un de tes vaillants soldats, Uri, le Hessien, celui qui combat pour toi depuis des années. Il était déjà là au désert. Il a montré toute sa fidélité pendant tellement d'années envers toi. Et puis Eliam, son père, son propre père, lui aussi, il est à ta droite depuis si longtemps. Il combat pour toi. Et Uri, il est en train de combattre en ce moment même pour toi. Alors, oublie ça. Bathsheba, c'est même la petite fille d'Achitophel. Et Achitophel, c'est ton conseiller. Et quand Achitophel a parlé, c'est comme si Dieu a parlé. C'est un homme fidèle, un homme droit. Oublie-la. T'approcher d'elle, c'est du suicide. N'y pense même pas. Et fuis la tentation qui germe dans ton cœur. Et David envoya, verset 4, des gens pour la chercher. Elle vint vers lui, il coucha avec elle, et après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte, et elle fit dire à David, « Je suis enceinte. » Lorsque David quand la jouissance du péché a été consommée, quand le cœur a été s'est révélé, David cherche à présent à cacher son adultère. Et en fait, c'est un péché qui en entraîne un autre, et ainsi de suite. L'acte le plus cruel, probablement, a été d'envoyer l'époux de Bathsheba, le fidèle, le courageux Uri, exécuter sa propre sentence de mort. Il y, y a une perversion ici, terrible. David sait à quel point Uri est fidèle, lui est fidèle, et lui confie un mot. Et il sait, parce que Uri est fidèle, il ne regardera pas ce mot. Il le portera à Joab comme David le lui a demandé. Et ce mot porte sa propre condamnation à mort. Il y a une perversion terrible ici. Il est mort sans savoir qu'il avait été victime d'une trahison de celui qu'il s'efforçait de servir depuis tant d'années. David avait l'impression que personne ne connaissait son crime et ne l'a pas avoué. Et cependant, au verset 27, il est dit, à la fin du verset, « Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. » Oh, personne ne sait. Mais Dieu sait. Dieu a tout vu. Dans le psaume 32, versets 3 et 4 qu'on a lu tout à l'heure, David était écrasé en réalité par le poids de son péché. Il dit « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main s'appesantissait sur moi, ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. » Mais alors, pourquoi une telle histoire? Pourquoi une telle histoire? Quel est le but d'une telle histoire? Qu'est-ce que nous devrions apprendre d'une telle histoire? C'est le chapitre 12 qui nous le révèle. Et je voudrais qu'on lise les premiers versets, les huit premiers versets. « L'Éternel envoya Nathan vers David, et Nathan vint à lui et lui dit, « Il y avait dans une ville deux hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein. Il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre. Il l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. Alors la colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. Et il dit à Nathan, « L'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra quatre brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. » Et Nathan dit à David, « Tuez cet homme-là. » Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël, je t'ai délivré de la main de Saül, je t'ai mis en possession de la maison de ton maître, j'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître, et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela avait été peu, j'y aurais encore ajouté. » Cette histoire de David, elle nous sert de miroir, elle nous sert aussi de chemin, elle nous sert enfin de télescope. Je vous propose de regarder d'abord qu'elle nous sert de miroir, cette histoire. Elle nous sert de miroir pour nous mettre face à la réalité de ce que nous sommes. Une année s'est écoulée. David croyait qu'il avait évité toute conséquence de son crime. Et quelque part, il est étonnant que nous soyons tellement aveugles sur nos propres fautes et pourtant tellement aptes, d'après nous, à voir celles des autres. Hein, Jésus dit, « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil ?» Et c'est parce qu'on est un peu aveugle que Dieu envoie un prophète à David pour le conduire à la repentance. C'est pour ça qu'il lui offre un miroir pour découvrir son propre état, son propre cœur. Et par une simple parabole, Nathan fait comprendre à David l'énormité de son péché. On raconte qu'un prédicateur annonça un jour qu'il y aurait à telle date un service funèbre dans l'église. Ce serait, dit-il, le service d'une personne que chacun connaissait très bien. Alors, au jour dit, l'église était pleine de curieux. Ce n'est pas l'habitude d'annoncer un service funèbre sans dire qui était le mort. Alors un chœur chanta un hymne funèbre, et puis le prédicateur a pris la parole, il a commencé à prêcher, et quand il prêchait, loin de célébrer le défunt et ses mérites, il a commencé à montrer que c'était un homme qui n'avait pas observé les commandements du Seigneur. Il avait su ne pas tomber sous le coup de la justice des hommes, mais maintenant il était confronté à la justice de Dieu. L'auditoire était de plus en plus intrigué. Et à la fin de son message, le pasteur a demandé à ce que le couvercle du cercueil soit levé et à chacun, s'il le souhaitait, de venir reconnaître ce mort. Alors il y a eu une longue défilée devant le cercueil. Les derniers voyaient les premiers qui se redressaient avec un visage plus ou moins crispé, se retiraient dans le silence. Personne ne disait rien. Qu'est-ce qu'ils avaient vu ? Le pasteur avait tout simplement placé au fond du cercueil un miroir. Et chacun, en se penchant, avait vu sa propre image. C'est l'effet qu'a eu la parabole de Nathan sur David. Et c'est l'effet que cette histoire de David doit produire sur nos propres cœurs. Nathan, il lui a montré dans le miroir l'image de son égoïsme sans pitié. Il lui a fait voir également comment Dieu avait fait roi un pauvre berger et l'avait comblé de tout ce qu'il pouvait désirer et comment il avait tout reçu avec ingratitude. Et ici, dans ce passage, ce qui est frappant, c'est le caractère oublieux, le manque de reconnaissance de David. Versets 7 et 8, hein, les paroles de Dieu rapportées par Nathan, il dit « Je t'ai oint pour roi sur Israël, je t'ai délivré de la main de Saül, je t'ai mis en possession de la maison de ton maître, j'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître, je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda, et si ça avait été peu de choses, j'en aurais encore ajouté. » Mais toi, tu n'as pas considéré ces choses-là. Tu as oublié, tu as pensé que c'était toi qui t'étais attribué toutes ces choses. Et de la même manière, nous sommes oublieux de la grâce de Dieu envers nous. Nous sommes oublieux de tout ce qu'il a fait pour nous. Dieu doit rappeler à David tout ce qu'il a fait pour lui, sa position actuelle, sa délivrance de Saül, ses épouses, son succès, la prospérité d'Israël, la grandeur de son royaume, tout cela, c'est Dieu qui le lui a donné. Mais David a perdu cela de vue, et son péché, et parce qu'il a perdu cela de vue, son péché, ça a été un abus de pouvoir. De la même manière que dans la parabole de Nathan, l'homme riche abuse de son pouvoir, et il prend la seule brebis de ce pauvre pour la sacrifier. Et quand on oublie la grâce de Dieu pour nous, on abuse de ce que Dieu a fait de nous. À ce moment-là, pour David, comme si à ce moment-là, David y pense avoir tous les droits. Et c'est ça le drame. Quand on oublie la grâce de Dieu pour nous, on pense avoir tous les droits. Et on abuse de cela. Et toute la finesse de Nathan ou du Saint-Esprit, c'est de réveiller la conscience de David. Et quand il lui place le miroir, il dit, mais un tel homme mérite la mort. Et Nathan de lui dire, mais c'est toi cet homme. Tu es cet homme. Mais voilà, mes amis, voilà ce que nous sommes. Nous sommes des pécheurs avec un cœur rempli de convoitise, avec un cœur rempli de mauvais désirs, de manque de reconnaissance, de lâcheté, de mensonge, d'hypocrisie. Et si nous sommes un instant livrés à nous-mêmes, voilà ce dont nous sommes capables. Et cette histoire, elle doit révéler cela à nos cœurs. Voilà le but de cette histoire. Nous sommes déchus. Et les meilleurs d'entre nous, elles sont capables de telles défaillances. Puisque sans aucun doute, David est l'un des meilleurs d'entre nous. Quand le péché d'un homme éclate à la vue de tous, plutôt que de juger ou de jeter l'anathème, nous devrions être saisis de crainte pour nous-mêmes. De réaliser que si je ne suis pas moi-même tombé, c'est encore là l'effet de sa grâce envers moi. Noé, Abraham, Sarah, Jacob, Moïse, Samuel, Samson, tous les héros de la foi de Hébreux 11 ont connu des défaillances. Les disciples du Seigneur eux-mêmes ont montré leurs limites. Est-ce qu'on peut imaginer un seul instant qu'on soit différent, qu'on ne soit pas capable de ces mêmes choses, de ces mêmes atrocités? Toutes ces choses-là habitent dans nos cœurs. Et donc cette histoire, elle est là pour révéler, nous mettre en face de la réalité de nos propres cœurs. Et puis c'est aussi comme un chemin pour nous conduire à la repentance, parce que c'est ce qui nous est révélé après, dans la suite de l'histoire. La Bible dit au verset 13, Nathan dit à David, j'ai péché contre l'Éternel. Oui, j'ai péché contre l'Éternel. Et le psaume 32 et le psaume 51 montrent un peu plus du cœur repentant de David. Et je vous propose de lire quelques versets du psaume 51. Je lis au verset 2. Psaume 51, verset 2. Lorsque Nathan le prophète vint à lui après que David fut allé vers Bathsheba. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Verset 12. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Cette histoire, elle est là pour nous servir de chemin, pour nous conduire à la repentance. David est vraiment repentant. En fait, il se voit vraiment tel qu'il est. Hein, dans le verset 6, il dit, « Tu es juste dans ta sentence, tu seras irréprochable dans ton jugement. » Et c'est cela la repentance. C'est se mettre du côté de Dieu et de dire, « C'est vrai, Seigneur, je suis celui-là. » C'est juste, ta sentence est juste. Il avait déclaré juste avant cela qu'il était digne de mort. Et en effet, son adultère, son crime crapuleux mérite la mort. Et c'est aussi ce que nous méritons, la mort. Peut-être quelqu'un dira, oh, attends, non, moi je ne suis pas un criminel. Moi j'ai pas tué comme David. J'ai pas commis l'adultère comme David. Jésus il précise un peu sa pensée dans les évangiles et il dit, mais celui qui dit à son frère raca, c'est-à-dire imbécile, il a tué avec sa bouche. Celui qui regarde une femme et la convoite, il a commis l'adultère dans son propre cœur. Est-ce que le péché mérite la mort? Oui, c'est la Bible qui le dit. Péché mérite la mort. Pourquoi? Parce que le péché est contre Dieu. Vous voyez, dans l'autre passage, David, dans le psaume 51, il dit « J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. » J'ai péché contre toi seul. Est-ce qu'il a péché contre Dieu seul? Il a péché. Il a commis un crime envers Bathsheba et envers Uri. Il a péché contre eux. Mais tout péché est d'abord contre Dieu. Et c'est ça qui fait la gravité du péché. La sévérité de la punition dépend de la personne que l'on a offensée. Si je parle devant un proviseur, si un élève met une claque à un autre élève, bon, va chez le proviseur, il prend une heure de colle. Maintenant, si un élève met une gifle à un professeur, là, il va chez le proviseur et puis il est expulsé de l'établissement. Maintenant, si l'élève donne une gifle à la reine d'Angleterre, qu'est-ce qui se passe? Il prend une heure de colle? Non. Il est enfermé. Il va directement en prison. Ce qui montre que la sévérité de la punition dépend de la personne que l'on a offensée. Qui est-ce que l'on a offensé? La reine d'Angleterre? Non! Si seulement! C'est Dieu lui-même. Dieu lui-même. Celui-là qui établit les rois sur la terre. Lui, il est le roi éternel. Et donc, il reconnaît, David reconnaît, que ce n'est pas une simple défaillance qu'il a commise. Vous savez, c'est souvent comme cela quand on voit notre propre péché. Et tant qu'on voit notre péché comme cela, ça n'est pas de la repentance véritable. On pense, ah oui, non, je suis désolé, là j'ai eu vraiment une défaillance, c'était comme un moment de folie, quoi. Et j'ai commis ce péché, mais je ne suis pas comme ça. Mais la repentance, écoutez ça, la repentance, ça n'est pas ça. La repentance, c'est véritablement de voir que c'est notre nature profonde qui est comme ça. Et David, il dit ça, regardez, il dit au verset 7, « Voici, je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché », c'est-à-dire, de nature par nature, je suis comme ça, je suis un vrai pécheur, je suis profondément méchant, profondément adultère, profondément criminel, profondément pervers dans ma nature. Et c'est là, c'est ça qu'il dit. Il dit, c'est ma nature véritable qui s'est exprimée. Ce sont les dispositions naturelles de mon cœur. Il continue en disant, verset 8, « Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur? Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. J'en ai aucune sagesse. La sagesse n'habite pas en moi. » Ce n'est pas un moment de folie qui m'a pris. Non, c'est que la sagesse, il n'y a pas une once de sagesse dans mon cœur. Et il dit encore au verset 12, « Crée en moi un cœur pur, mais parce que le mien ne l'est d'aucune manière. » C'est-à-dire, il n'y a rien en moi. Il y a une déchéance totale de notre propre cœur. Et la repentance de David arrive un an après les faits qui lui sont reprochés. Et là, Au verset 13 dans notre passage, dans le même verset où David dit « J'ai péché contre l'Éternel », Nathan dit à David « L'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point, tu ne mourras pas, mais néanmoins tu as souillé sa réputation, tu as mis en danger les fondements du royaume et tu as donné à ses adversaires une occasion de blasphémer. Et notre péché a des conséquences comme celui de David a des conséquences. David sera puni. La Bible dit ici que l'épée ne s'écarterait plus de sa maison. Il avait dit au sujet de la brebis, il dit « Il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. » David, il a rendu 4 fils, 4 de ses enfants pour avoir tué celui-ci. Pour avoir tué Uri. 4 de ses enfants sont morts prématurément. Il y a l'enfant né de son adultère, qui est mort peu après. Il y a Amnon, qui a été tué par Absalom. Il y a Absalom, qui a été tué par Joab. Et puis Adonija, qui a été tué par Salomon. On pourrait se demander, mais alors, Dieu pardonne. Pourquoi Dieu pardonne et fait pourtant peser sur David de telles conséquences? Et c'est aussi notre expérience, bien souvent. On se dit, mais oui, je suis pardonné, mais les conséquences de mes fautes sont lourdes et elles ne me sont pas entièrement épargnées. La raison pour laquelle Dieu fait malgré tout peser un certain nombre de conséquences sur nos fautes, je suppose que non seulement Dieu veut nous amener à la repentance, mais aussi il veut nous y maintenir. C'est-à-dire, c'est pour ça que cette histoire, c'est un chemin. Elle nous sert de chemin. C'est-à-dire, on vient sur ce chemin de la repentance et puis on y reste, on y demeure. On continue à avancer sur ce chemin de la repentance. Et au fond, Dieu sait que la bonne attitude, c'est celle qui nous garde près de lui. C'est cette attitude de repentance. Et supporter certaines conséquences, c'est aussi une manière de nous rappeler à la fois notre péché et la grâce dont nous avons été l'objet. Finalement, son humiliation se prolongeait par les conséquences. Mais il pouvait dire, je mérite plus que cela. J'aurais dû mourir. J'aurais dû mourir. Mais Dieu m'a pardonné. Je devrais être séparé de lui pour toujours. Mais il m'a restauré dans la communion de son Saint-Esprit. Et vous voyez, c'est cela que nous raconte cette histoire. On aurait dû être séparés pour toujours d'avec Dieu. Mais la repentance, dans notre cœur, elle nous conduit sur un autre chemin. Un chemin où, effectivement, on porte parfois les conséquences de nos fautes. Souvent, pas entièrement. Mais on les porte. Les stigmates de nos fautes demeurent. Et ces stigmates nous gardent sur ce chemin de repentance. Pourquoi cette histoire, la troisième pensée, c'est un télescope, elle nous sert de télescope pour nous faire admirer la grandeur de sa grâce. La réaction de David à la mort de son fils montre qu'il avait, il se savait parfaitement pardonné. Vous vous souvenez de cette histoire ? Nathan lui dit, mais ton fils va mourir, verset 15. L'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David, et il fut dangereusement malade, et puis l'enfant meurt. Et à la fin de ce passage, chapitre 12, verset 23, il dit, maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerai-je? Puis-je le faire revenir? J'irai vers lui. Mais il ne reviendra pas vers moi. J'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. Il sait, David sait qu'il vivra éternellement. Et c'est pour ça qu'il sait qu'il est pardonné. Il sait que quand il meurt, il va auprès de Dieu et il va retrouver son fils. Et là encore, c'est une parole qui est touchante et plein d'instructions pour nous. Ça veut dire que David, ici, il avait aussi la certitude d'une réunion après la mort des enfants morts en bas âge et des croyants. Quand un bébé meurt, quand un enfant meurt, il est mis au bénéfice de la grâce de Dieu. Puis, Dieu lui donne un autre fils, Salomon. Salomon, ça signifie littéralement « Dieu est paix ». Et au fond, ce fils, c'est la garantie du pardon de Dieu. Et cette naissance, elle met aussi en évidence la grâce de Dieu, la grâce insondable de Dieu qui a choisi le fils de cette femme pour être le successeur de David. Regardez ce qu'il est dit en 1 Chronique 22. 1 Chronique 22, le verset 9. C'est David qui parle à son fils Salomon. J'avais eu l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel mon Dieu. Verset 8. Mais la parole de l'Éternel m'a été ainsi adressée. Tu as versé beaucoup de sang et tu as fait de grandes guerres. Tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu as versé devant moi beaucoup de sang sur la terre. Voici, il te naîtra un fils qui sera un homme de repos et à qui je donnerai du repos en le délivrant de tous ses ennemis d'alentour. Car Salomon sera son nom. Et je ferai venir sur Israël la paix et la tranquillité pendant sa vie. Quand David a eu cette promesse, Salomon n'était pas né. Il n'avait pas encore commis cet adultère. Puis cet enfant est né, Salomon. Et il l'a appelé Salomon. J'ai la paix avec Dieu. C'est lui-même qui va utiliser Bathsheba pour mettre au monde Salomon, le successeur de David. Et puis il a choisi cette femme, Bathsheba, pour la faire figurer parmi les ancêtres de Christ. Hein, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 1, on a la généalogie de Jésus, fils de David, fils d'Abraham. Il est dit au verset 6, Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David, le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri, Bathsheba. Ça nous montre comment Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. Le nom de David, il est pour toujours associé avec celui du Messie, de Jésus-Christ. Dans les conséquences de son péché, il nous faut retenir aussi la mort de son enfant, celui dont on ne connaît pas le nom, mais qui meurt à cause de la faute de David, celui qui est un innocent. Finalement, notre paix avec Dieu passe aussi par la mort d'un innocent. Jésus, appelé le fils de David. C'est lui, la victime par laquelle on a la paix avec Dieu. C'est lui, Jésus-Christ, qui en mourant efface nos péchés, nos transgressions. C'est lui qui nous permet de jouir de cette paix, de cette réconciliation avec le Père. Et lui, il a fallu qu'il meure, précisément parce que le salaire du péché, c'est la mort. Parce que l'offense avait été faite envers Dieu, premièrement. Il a fallu que le Fils meure. Et si nous voulons rester près de Dieu, il nous faut aussi nous souvenir de ce que nous sommes en réalité, des pécheurs. Nous souvenir de ce que nous méritions, la mort, et comment Dieu nous a fait grâce en envoyant son Fils, le juste. C'est les derniers jours de l'année. Peut-être votre année a été entachée, si je peux dire, de toutes ces fautes, produit de nos cœurs, de la méchanceté, de la convoitise, de tout ce qui, devant Dieu, est une idole, de tout ce qui peut nous condamner. Et puis, vous réalisez en cette fin d'année aussi, voilà, Dieu pardonne mon péché. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas, au contraire. Je vivrai. Je vivrai pour toujours. Je vivrai dans sa présence. Je vivrai dans la présence de tous les rachetés. Oh, quelle grâce! Moi qui méritais la mort, Dieu m'a pardonné. Dieu m'a fait grâce. Cette histoire, quelle histoire extraordinaire, quelle histoire si forte, si puissante. Elle est là pour cela, pour nous servir de miroir, montrer l'état de nos cœurs, pour nous servir de chemin, pour nous conduire à la repentance et nous y faire demeurer dans cet état de repentance. Et puis enfin, pour nous montrer la grâce immense, insondable de notre Dieu. Alors que Dieu nous bénisse pendant ces derniers jours. Faisons le point. Venons sur ce chemin de repentance, si nous avons été frappés par le miroir, par l'image de ce que nous sommes. Et puis, restons-y. Et puis, admirons, glorifions Dieu pour sa miséricorde envers nous. Amen.